ne prends pas le risque de perdre l'onction de Dieu sur ta vie. Et on a besoin de cette direction de Dieu pour, et de sa parole aussi pour avoir cette onction fraîche de son esprit. Depuis le début de l'année, bien, on a vu que la parole de Dieu est notre boussole, cette parole qui nous guide, qui nous conduit, qui nous équipe aussi pour affronter différentes épreuves, différentes tempêtes qui peuvent survenir, affronter des épreuves avec foi, avec force, avec courage. Cette parole de Dieu qui transforme nos cœurs, nos pensées, pour refléter aussi la volonté de Dieu, nous appelle à agir avec fidélité, avec persévérance. Cette parole, eh bien, qui suscite la foi, qui suscite l'enthousiasme, qui suscite bien évidemment l'action et l'onction de Dieu. Cette parole qui, comme le dit Paul à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 16, cette parole qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Pas toute écriture, ce n'est pas le nouvelliste dont on parle, ce n'est pas le roman du coin, mais quand on parle de l'écriture, c'est avec ce grand E, c'est l'écriture, la parole de Dieu, la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner la vérité, pour nous en convaincre, parce qu'on peut savoir que c'est peut-être la vérité, mais encore faut-il en être convaincu, pour corriger les erreurs, parce que, ben oui, on reste humain, parfois charnel, et on peut se tromper aussi, faire des erreurs, rectifier nos pensées. La parole de Dieu qui nous fait changer peut-être d'état d'esprit, elle nous aide à réformer notre conduite. Elle nous rend capable de mener une vie juste. Sans cette parole de Dieu, c'est impossible de mener une vie juste. C'est juste impossible. On va peut-être être humaniste ou chercher à faire des choses par nos propres forces, mais c'est la parole de Dieu qui nous rend capable. Une vie juste conforme à la volonté de Dieu. Pas une vie juste selon les standards humains, selon la loi simplement. Et c'est important. Et toute cette année, vous savez bien qu'on est dans ce voyage au cœur des Écritures aussi. Et on cherche aussi à s'encourager mutuellement dans la lecture du Nouveau Testament. Évidemment, on ne vous interdit pas de lire l'Ancien Testament, rassurez-vous. Mais de lire le Nouveau Testament ensemble, un chapitre par jour, sur 5 jours par semaine, et à la fin de l'année, on aura lu tout le Nouveau Testament. Il y a des petits guides encore de lecture, des petits plans de lecture que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et je crois que Dieu a donné sa parole comme guide, sa parole qui nous éclaire, comme un guide parfait pour nous enseigner, nous corriger, pour nous façonner. Et il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu, on est aussi appelé à lui obéir. À lui obéir. Et aujourd'hui, donc on va voir à travers l'histoire de Saül, Saül qui a été le premier roi en Israël, premier roi que Dieu avait donné à Israël, au travers de l'histoire de Saül, comment la désobéissance, l'impatience, l'orgueil peuvent nous faire perdre l'onction de Dieu. Saül, donc, qui a vécu plus de 1000 ans, avant Jésus-Christ, et on va voir combien l'onction de Dieu est un privilège, mais aussi une responsabilité. Saül avait l'onction de Dieu, il a reçu cette bénédiction, mais il a perdu cette onction, il a perdu la bénédiction. Et ce n'est pas un simple don, une capacité humaine, mais c'est une marque de Dieu qui équipe et qui qualifie une personne pour accomplir la volonté de Dieu. Et l'onction ne dépend pas seulement de notre talent ou de nos capacités, mais avant tout de notre obéissance et de notre fidélité à Dieu. Dans Jean 15, 16, Jésus va dire « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Jésus est en train de dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. C'est-à-dire qu'on a reçu cette onction, mes frères et sœurs. On a reçu cette bénédiction de Dieu sur nos vies. Dès le moment où on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est vraiment dans ce plan de Dieu, parce qu'on est de celles et ceux eh bien, qui entrent dans ce plan, parce que Dieu nous a choisis. Et il nous a établis. Et si on est établi pour porter du fruit, c'est parce qu'on a reçu son esprit, l'esprit de Dieu, pour pouvoir porter du fruit. Pas juste pour dire, ben, tiens, j'ai le stempel, je suis chrétien, je suis sauvé. Mais on a ce stempel, justement, non seulement pour être sauvé et puis dire, youpi, maintenant c'est bon, j'ai le minimum vital, mais c'est aussi pour pouvoir porter du fruit. Et la question clé que va susciter ce message, eh bien, est-ce qu'on est en train de marcher dans l'onction, sous l'onction de Dieu, ou est-ce qu'on est en train de mettre en danger cette onction par notre manière de vivre ? Et Saül a mis en danger son onction par sa manière de vivre. Donc ce matin, on va voir l'importance de l'obéissance à Dieu, les conséquences aussi de la désobéissance et l'importance, encore une fois, de choisir l'obéissance afin de conserver cette onction de l'Esprit de Dieu sur nos vies. Je ne sais pas comment vous êtes familiarisé avec la parole de Dieu, mais pour traiter, comme je l'ai dit, de ce point, on va se tourner vers le livre de Samuel, 1 Samuel 13. Peut-être certains, tout de suite, vous savez où ça se trouve, d'autres, peut-être pas, mais je vous encourage à lire vos Bibles, peut-être même dans une version papier. Une version papier que vous pouvez surligner, que vous pouvez souligner, où vous sentez aussi les pages, vous voyez les chapitres défiler, et vous avez une vision un petit peu plus globale de l'ensemble. Une Bible qui est souvent méconnue, peut-être par beaucoup de personnes. On sait, on l'a de multiples façons. Si vous n'avez pas de Bible, d'ailleurs, on est prêt à vous en offrir une, parce qu'on considère aussi l'importance de lire la Bible. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de chapitres, mais ça ne fait pas si peur que ça. Comme j'ai dit, pour lire le Nouveau Testament, eh bien, il suffit de lire un chapitre par jour, 5 jours par semaine. Sur une année, vous avez lu tout le Nouveau Testament, ce n'est pas grand-chose, c'est 3 minutes, pas beaucoup plus, par jour en moyenne. C'est un peu plus de 30 versets par jour en moyenne. La Bible, l'Ancien Testament, si on regarde selon l'ordre traditionnel aussi de nos Bibles, eh bien, est composée de différentes sections qu'on appelle le Pentateuque. Penta de 5 et teuque, c'est le tube, le tuyau qui contient le livre. Enfin, c'est difficilement traduisible en français. C'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome ou les 5 livres de Moïse. Attribué à Moïse. Il y a 12 livres historiques, Josué, Juge, Ruth, 1, 2 Samuel, ben c'est là qu'on va aller. Donc ce n'est pas très loin après le début de votre Bible. 1 Samuel, 1, 2 Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Après 5 livres, 10 poétiques, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Il y a des livres prophétiques, on dit les grands prophètes. Ou les petits prophètes, Isaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel. Donc vous trouvez tout ça dans votre Bible en principe. Elle est dans cet ordre-là traditionnel grec. Après, il y a l'ordre hébreu. Alors certaines Bibles utilisent cet ordre-là avec la loi, la Torah, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Après les Nébim, les prophètes. Prophètes antérieurs, donc les vieux et les postérieurs, ceux qui viennent après. Et là, on a juste enlevé, si vous regardez, ça commence Josué, juge, il manque Ruth. Là, elle vient un petit peu plus tard. On la met plus tard ici, dans les Ketumim, les écrits. Donc, c'est différentes façons de répertorier les livres dans l'Ancien Testament. En principe, dans vos Bibles, ça sera l'ordre traditionnel grec, mais ça ne change rien. C'est juste pour vous dire que dans votre Bible, il y a tout ça, et bien plus encore. Lisez-la, ça fait tellement de bien. Et le Nouveau Testament, ben là, voilà. Les évangiles, les épîtres de Paul, les épîtres prophétiques aussi, et plutôt prophétiques, l'Apocalypse. Qui veut dire révélation. Ça ne veut pas dire fin des temps ni cataclysme, c'est révélation. Révélation de Jésus-Christ. Donc voilà, Petite parenthèse fermée, on se retrouve donc dans Samuel, maintenant vous savez tous où ça se trouve. Samuel se retrouve ici, 1 de Samuel, super. Donc si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir et on lira tout à l'heure ce texte-là. Donc dans 1 Samuel 13, on va voir l'importance de l'obéissance et on est à un moment clé de l'histoire du peuple d'Israël. Et après que les Israélites ont demandé un roi pour être comme les autres nations, en fait, ils veulent être comme les autres. Ils ne se contentaient pas juste de la parole de Dieu, ils voulaient être comme les autres nations. Donne-nous un roi. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 8. Dieu leur a donné Saül, un homme grand, impressionnant, mais son cœur n'était pas attaché à l'obéissance de Dieu. Pourtant, il va recevoir l'onction de Dieu. Les Philistins, ennemis redoutables d'Israël, rassemblent une immense armée pour attaquer le peuple de Dieu. Et face à cette menace, ils ont peur, évidemment. Les soldats israélites, pris de peur, commencent à fuir, à abandonner Saül. Et Samuel, le prophète de l'Éternel, avait donné une instruction claire à Saül, attendre 7 jours son arrivée avant de faire un sacrifice à Dieu, puis finalement avant d'aller au combat. C'était pareil d'ailleurs dans 1 Samuel 10, verset 8, où Samuel avait donné l'onction à Saül déjà, il avait versé la corne d'huile, puis il a dit « Tu attendras encore 7 jours avant que j'arrive ». Vous trouvez ça, ce chiffre 7 aussi, apparemment Saül a dû attendre 7 jours. Mais là, il a oublié de patienter. Ce sacrifice, c'est un acte de consécration, un signe de confiance envers Dieu avant d'aller au combat. Mais alors que l'armée se disperse, Samuel tarde à arriver. Il se dit, il n'est pas à l'heure, Samuel, là. Il commence à avoir peur, tout le monde commence à partir. Et puis, il se dit, je vais faire quelque chose, je vais me mettre en action. C'est un test de patience. Patience si, malgré les choses qui commençaient un petit peu à se détériorer, est-ce qu'il continuerait de faire confiance à Dieu ? Et ce moment, c'était un test spirituel pour Saül. Est-ce qu'il allait faire confiance à Dieu, obéir à ses instructions, ou est-ce qu'il va prendre les choses en main par lui-même ? Malheureusement, Saül a choisi l'impatience au lieu de l'obéissance, pensant bien faire, en offrant un sacrifice à lui-même, alors qu'il n'était pas du tout habilité pour faire ça. Il y avait les rois, les prophètes, enfin. Et lui, il n'était pas du tout, il était roi, mais il n'avait pas. Il était ni sacrificateur, ni rien du tout, il était juste roi, c'est déjà pas mal, hein. Déjà pas mal. Malheureusement, Saül, faire cette offrande, et dès qu'il termine l'offrande, ce sacrifice, Samuel arrive et lui reproche sa désobéissance. Et cette histoire illustre un principe fondamental, Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui obéissent. Pas juste qui se mettent en action, même quand Dieu tarde ou semble tarder. Et le problème de Saül, ce n'était pas seulement son acte, mais son cœur qui commençait petit à petit à s'éloigner de Dieu. Et cette erreur va lui coûter son royaume. Rappelle aussi l'importance de l'obéissance et de la patience dans notre marche avec Dieu. Lorsque tout va bien, tout se déroule tranquillement, c'est facile de faire confiance à Dieu. On se rend compte que point 1, point 2, point 3, et voilà, l'étape, c'est le tapis rouge, quoi. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Lisons ce texte dans 1 Samuel 13, 7 à 14. Certains Hébreux franchirent le Jourdain. Donc, il se passe ça, ils sont entourés, là, des Philistins. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galaad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée, qui tremblait d'épouvante. Certains fuient, vous voyez, ils se taillent, courage, fuyons. Verset 8, « Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion, et il offrit lui-même l'Holocauste. » Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmash, je me suis dit, « Les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. » Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. L'histoire de Saül illustre parfaitement les dangers de l'impatience et de la désobéissance. Pas facile, hein, d'attendre, surtout dans ces circonstances-là. Imaginez, il y a toute une armée qui est là, les soldats commencent à tous fuir, et là, il se dit, aïe, 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 oui, oui, oui. Saül et son armée attendaient Samuel pour offrir un sacrifice avant d'aller combattre les Philistins. Et Samuel avait donné une instruction claire, attendre 7 jours son arrivée. Là, ils étaient déjà au 7e jour. Hein. Et il se dit, bon, maintenant, c'est bon, j'ai attendu les 7 jours. Je me fais violence, comme c'est dit dans ce texte, j'aime bien. Mais alors que l'attente se prolongeait et que les soldats commençaient à s'impatienter, Saül a pris l'initiative d'offrir lui-même ce sacrifice. Et ça a été vraiment une erreur fatale. Une erreur fatale pour Saül. Saül a cru que le rituel était plus important que l'obéissance. Finalement, il fallait faire ce truc comme un porte-bonheur. Il ne l'a pas fait dans l'état d'esprit de rendre un culte à Dieu, il l'a fait dans l'état d'esprit du porte-bonheur. Il faut que je fasse ça. Il a pensé que le sacrifice allait garantir la victoire, alors que c'était son obéissance qui comptait aux yeux de l'Éternel. « Tu as agi comme un insensé. » Lui dit Samuel, « Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Et pour nous aussi, il est parfois facile aussi de justifier nos choix par des excuses rationnelles. « J'étais sous pression. J'avais pas le choix. Si j'avais fait ça, j'aurais perdu ma place de travail. » « Si j'avais fait ça, j'aurais dû payer plus d'impôts. Si j'avais fait ça, j'aurais... » J'étais sous pression, ou ça aurait été, si j'avais dit ça, ma note aurait été à râler pâquerette, voire en dessous du minimum. Mais Dieu ne cherche pas des solutions humaines, il cherche des cœurs obéissants. Et c'est avec un cœur obéissant que Dieu veut faire un miracle. L'obéissance, même quand elle semble illogique ou inconfortable, vaut mieux que nos propres stratégies. Alors est-ce qu'on est tenté d'agir par impatience ? Au lieu d'attendre l'accomplissement du plan de Dieu. Attendre le timing de Dieu. Donc, l'importance de l'obéissance à Dieu. Deuxième chose, les conséquences, parce qu'il y aura des conséquences catastrophiques pour Saül, mais non seulement pour Saül, aussi pour toute sa famille, toute son ethnie aussi. Les conséquences de la désobéissance. Dans 1 Samuel 16, on voit que Saül n'a pas seulement désobéi une fois, il a développé une attitude d'indépendance qu'il a progressivement éloigné de l'onction de Dieu que Dieu lui avait donnée par la main de Samuel. Pour rappel, ce n'est pas juste, oui, il y a eu un mauvais roi pour préparer pour David. Ça, c'est un raccourci qui est un peu faux, désolé. Pour rappel, Saül était un choix de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu elle dit. Saül était le choix de Dieu. Même si on sait, nous, la suite, hein, on sait que voilà, il devait y avoir David et que de David, il viendrait Jésus aussi. Oui, on sait tout ça. Mais Saül était quand même le choix de Dieu. 1 Samuel 10:1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. » Ce n'était pas du cinéma, mes amis. Et Dieu nous désigne aussi par onction. Verset 6 « L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux. » Donc, il cherchait les ânesses de son père qui étaient perdus, enfin voilà. « Et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Et verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Saül était le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu aussi. Vous êtes le choix de Dieu. Saül n'a pas choisi d'être roi. Il ne s'est pas présenté aux élections. D'ailleurs, c'est difficile à trouver, hein, parfois, certaines élections, d'autres un peu plus faciles, mais voilà. Saül n'a pas choisi d'être roi, c'est Dieu qui l'a choisi et oint par l'intermédiaire du prophète Samuel. Et cette onction était accompagnée d'une transformation intérieure. Verset 6, « L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. » Lorsqu'on reçoit l'Esprit du Seigneur sur nos vies, on est un autre homme, on est une autre femme. Un être régénéré par l'Esprit de Dieu. Ça signifie que Dieu l'équipait spirituellement pour gouverner son peuple avec sagesse, avec force. Et lorsque Dieu a rejeté Saül, il a envoyé Samuel chercher un autre roi. Alors que Samuel pensait que l'aîné d'Isaïe était le bon choix, Dieu lui a répondu « Ne prête pas attention à son apparence et sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tous les frères David sont passés, un après l'autre. Il ne restait plus que le petit dernier. J'imagine Samuel qui se dit, mais purée, il a combien d'enfants, ce type? Enfin, c'est pas dans la Bible, mais ils passent tous, puis finalement, il dit, mais... Même le père, il dit, ils sont tous passés, enfin. Puis il dit, mais il n'y en a pas encore un, quoi, que tu caches derrière. Même Samuel s'est dit, sûrement celui-là, il est tellement grand, tellement fort, tellement beau. Ça doit être lui, un des frères de David. Puis Dieu lui dit, prête pas attention à son apparence. Le problème de Saül, ce n'était pas seulement son erreur, mais son cœur qui s'éloignait de Dieu. Dieu regarde au cœur. Nous, on regarde souvent aux apparences, à ce qui frappe les yeux, à ce qui en jette, comme on dit. Dans Samuel 15, 17, Samuel dit à Saül, « Quand tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Quand tu étais petit à tes yeux, finalement... Le fait d'être roi, ça lui est monté à la tête. Ou on dira, il a eu les chevilles qui enflent. Quand tu étais petit. Et au début, Saül cherchait pas du tout la royauté, il était même hésitant. Dans 1 Samuel 9:21, lorsqu'il est interpellé pour ça, il dit, « Mais ne suis-je pas benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël ?» Il va dire, « Mais moi, roi, ça va ou bien ?» Après, quand Samuel veut le présenter comme roi, il se cache parmi les bagages. Je ne sais pas si vous savez, mais il a déjà reçu l'onction, hein, l'huile déjà dessus lui. Enfin, et il se cache. Il veut pas être roi. Au début, Saül se considérait comme un serviteur dépendant de Dieu. Et c'est cette humilité qui l'a qualifié pour la royauté. Et avec le temps, le succès et le pouvoir, eh bien, tout ça, ça a changé Saül. Il s'est dit, c'est quand même confortable hein, d'être roi, il y a quand même certains avantages. Tac, et puis tu as 10 serviteurs, servantes qui viennent, qui tirent les pompes. Enfin, tout ça, il a commencé à agir par lui-même sans attendre Samuel, parce que Samuel lui disait aussi des paroles qui dérangeaient. Il a désobéi à Dieu en épargnant ce qui devait être détruit aussi, si vous lisez dans 1 Samuel 15. Il a commencé à chercher sa propre gloire au lieu de glorifier Dieu. Dans 1 Samuel 15, verset 12, il est écrit que Saül a érigé un monument en son honneur. Parfois, les bénédictions de Dieu aussi nous font oublier notre dépendance à lui. Le pouvoir, le succès, eh bien, doivent jamais remplacer l'obéissance et l'humilité. Si Dieu vous accorde la grâce d'avoir du succès, n'oubliez jamais que ce succès dépend de Dieu et qu'à n'importe quel instant, eh bien, ce succès peut vous être retiré. Et ces paroles dans 1 Samuel 17, du prophète Samuel s'adressent à Saül, le roi d'Israël, Elles élèvent un principe spirituel fondamental. L'humilité précède l'élévation, mais l'orgueil précède la chute. On trouve ça aussi dans Proverbes 16, 18. Samuel dit, dans 1 Samuel 15 à Saül, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance. On peut dire qu'on aime Dieu, on peut chanter, faire des super concerts de louanges, on peut faire plein de trucs pour Dieu, mais si on est dans la désobéissance, c'est comme s'il était sourd. Comme s'il était sourd. Et ça va causer le retrait de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Samuel 16, 14, il est dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit venant de l'Éternel le troubla. » Ça aussi, cette parole, elle est troublante. Ça ne signifie pas que Dieu envoie des esprits mauvais dans les gens, mais qu'en s'éloignant de Dieu, Saül s'est ouvert à d'autres influences négatives. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et sans l'onction de Dieu, eh bien, on devient vulnérable aux attaques spirituelles et émotionnelles de toutes sortes. Il est devenu quasiment fou, le gars. Finalement, c'est David qui venait jouer de la harpe pour le calmer. Enfin, voilà. Pour nous, si on néglige la présence de Dieu et on choisit notre propre voie, eh bien, on risque de s'éloigner de son onction. Et le danger, ce n'est pas seulement de faire une erreur, mais de s'endurcir et de refuser de se repentir. Alors, est-ce qu'il y a des domaines dans notre vie où on a perdu la sensibilité à la voix de Dieu ? L'importance de l'obéissance à Dieu. Les conséquences de la désobéissance, c'est que l'Esprit de Dieu se retire, c'est que sa bénédiction se retire, et l'importance de choisir l'obéissance pour garder l'onction de Dieu. Le 26 janvier, on a vu, lors d'une prédication que j'ai donnée, que Paul exhorte Timothée à être vigilant aux voix qu'on écoute et aux influences qui façonnent notre foi aussi, à rester attaché à la parole de Dieu. Parce que Saül n'a pas obéi, Dieu l'a rejeté comme roi. Samuel rappelle que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Et son cœur s'est endurci et l'a fini dans la jalousie, dans la folie, cherchant même à tuer David, son successeur. Et l'orgueil nous éloigne de Dieu quand on devient trop grand à nos propres yeux. On risque de perdre la faveur et l'onction de Dieu. C'est tellement important de cultiver une obéissance quotidienne pour rester sous l'onction de Dieu. Il ne suffit pas d'aller dans une réunion où on va dire « Ah, là, il y a l'onction. » Ça ne sera qu'un apport extérieur, mes amis. L'onction, tu trouves dans ta chambre. Quand tu vas dans le lieu secret, tu fermes la porte et tu reçois. Oui, tu vas être béni dans un lieu de culte. Oui, tu vas recevoir certainement une parole du Seigneur. Et je prie qu'aujourd'hui, beaucoup reçoivent une parole du Seigneur. Mais ça, c'est un apport extérieur. Parce que d'autres se sont préparés en prier aussi. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu conserves cette onction et cette bénédiction sur ta vie, dans le cœur à cœur avec Dieu. L'onction, ce n'est pas un acquis. Elle se préserve par une relation constante avec Dieu. Choisis l'obéissance, reste humble pour conserver l'onction. Jacques 4, 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, souvenons-nous d'où nous venons. Saül a complètement oublié d'où il venait. Et c'est pour ça que Samuel lui a dit « Quand tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël ? N'es-tu pas devenu ? Souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous d'où vous venez. Ce souvenir d'où on vient comme Saül. » Au début, rester dépendant de Dieu. Le succès ne doit jamais nous faire oublier la source de notre bénédiction. Même si vous priez, et selon la parole de Dieu, qu'il y a des malades qui sont guéris. Ce n'est pas vos mains. Ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien XXL que ça se passe. C'est parce que Dieu vous a simplement mis l'onction. Mais si ça vous prend la tête et que c'est parce que vous êtes tellement... Finalement, les gens courent vers vous plutôt que vers Dieu. Cette onction, eh bien, va vous enfler et vous emporter aussi eh bien, loin de la gloire de Dieu. Rester dépendant de Dieu. Obéir avant tout. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Devenez jamais trop grand à vos propres yeux. Dieu nous appelle à l'humilité. Alors ce matin, on a vu l'importance de l'obéissance à Dieu. Conséquence de la désobéissance et l'importance aussi de rester eh bien, dans cette obéissance afin de garder l'onction de Dieu. L'histoire de Saül nous rappelle que l'obéissance à Dieu est essentielle pour conserver son onction et sa faveur. Mais pour obéir, on a besoin de cette boussole. On a besoin de cette boussole. Et cette boussole, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Si vous faites fi de la parole de Dieu, si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, vous allez devenir des anorexiques spirituels. Vous allez devenir des chrétiens mystiques. Vous allez inventer des trucs que Dieu n'a même pas dit. Et vous allez courir après des réunions et après des bénisseurs, des prophètes de tout genre. Vous allez même dépenser de l'argent pour recevoir une prophétie ou comme ça. Certains appellent même des fois des prophètes et doivent donner une petite pièce pour la prophétie ou autre. J'ai même entendu des pasteurs qui prient pour des gens et après ils susurrent dans l'oreille « Oublie pas la dîme de la prophétie ». Je m'excuse, ça vous trouverez jamais dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Vous trouverez jamais dans la parole de Dieu ce genre de choses. C'est gratos. Même face aux pressions, aux défis, on doit choisir de rester fidèle à la parole de Dieu dans son timing. L'impatience, l'orgueil, la désobéissance nous éloignent de Dieu et nous rendent vulnérables aux influences négatives. Et pour préserver l'onction du Saint-Esprit sur nos vies, c'est indispensable de cultiver une relation d'humilité et de dépendance envers Dieu en mettant toujours l'obéissance avant nos propres plans et nos ambitions. Vous voulez une direction ? Lisez la Bible qui va vous donner le nord, le sud, l'est, l'ouest et qui permettra que vous ne soyez pas à l'ouest. Et cette parole de Dieu, eh bien, elle est inspirée, elle est là pour nous enseigner la vérité, pour nous guider, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour rectifier nos pensées, elle nous aide. Alors ne prends pas le risque de perdre l'onction de Dieu. Reste fidèle, demeure dans sa présence et marche selon sa parole. Amen. Eh bien, Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous aides à garder le cap, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de l'exemple de Saül, qui avait reçu cette onction, qui avait été choisi pour gouverner, pour diriger Israël, au travers de cet exemple dramatique, Seigneur, tu nous rappelles que, oui, c'est pas un acquis pour toujours. Seigneur, on a besoin de rester fidèle. On a besoin de rester humble. Et Seigneur, oui, on voit ces conséquences dramatiques. Aide-nous, Seigneur, à ne pas juste constater ce que certains ont fait et ont peut-être mal agi, Seigneur. Mais aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à avoir un cœur pur. Aide-nous à savoir quelle est ta volonté aussi au travers de ta parole, au travers de la méditation, de la lecture de ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Parce que ta parole, elle est puissante et elle ne revient pas à toi sans effet. Seigneur, merci parce que c'est ta parole qui suscite la foi. Merci parce que c'est ta parole qui console. Merci parce que c'est ta parole qui restaure. Et ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour nous tous dans ce lieu de culte, afin qu'on aime ta parole, qu'on puisse s'en nourrir. Seigneur, ta parole est comme une nourriture, comme du miel sur nos lèvres, comme dit David. Oui, Seigneur, qu'on aime ta parole, même s'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, qui nous bousculent, Seigneur, donne-nous d'aimer ta parole, de lire et de continuer de lire ta parole, nous encourager, Seigneur, et de rester fidèle. Seigneur, à tes ordres, fidèle à ton esprit, Seigneur, garde-nous, Seigneur, de l'orgueil, garde-nous d'oublier d'où on est venu, garde-nous, Seigneur, de juger aussi les autres, Seigneur, mais qu'on puisse examiner notre cœur et te donner le droit d'examiner nos cœurs. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.